Père Philippe, théologie mystique, le sacerdoce du Christ, le 6 février 87, Rimont.
Excusez-moi de retarder. Nous allons continuer en recherchant à travers la vie apostolique de Jésus. façon vraie et profonde à la vie de son divine, de son fils. Je dis ça, c'est parce que dans la lecture l'autre jour, au réfectoire à Saint-Jodard, on rappelait cet exemple de la mère par excellence qui préfère que son fils meure plutôt que de pécher. Je crois que ça en dit très long par rapport à la mère, c'est-à-dire qu'elle préfère elle-même mourir plutôt que son fils s'écarte. Je crois que c'est ça l'attitude du bon pasteur, préférer de mourir sa vie temporelle plutôt que de voir les brebis s'écarter, être obstacle. Parce que il faut le regarder du Christ et de chacun d'entre nous. C'est le mystère du sacerdoce du Christ qui continue en nous. C'est qu'il est mercenaire et n'a point sans souci des brebis. Moi, je suis le berger, le bon berger, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alors toujours ce mystère de la connaissance. Cela fait partie du sacerdoce du Christ. Il est lumineux, le sacerdoce du Christ. Nous sommes des enfants de lumière grâce au sacerdoce du Christ, qui est source de lumière, sacerdoce contemplatif. Et c'est dans ce regard que le Christ connaît ses brebis, dans ce regard contemplatif. Et Jésus n'hésite pas de le dire, puisqu'il le dit. Comme le Père me connaît et comme moi je connais le Père. La connaissance que Jésus a du Père et la connaissance que le Père a de lui est analogue, c'est la même, à celle de Jésus pour nous et de nous par rapport à Jésus. Et on pourrait dire dans la charité fraternelle, c'est les mêmes liens. Et je livre ma vie pour les brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Voilà pourquoi le Père m'aime. Parce que moi, je livre ma vie pour la reprendre. Fait comprendre là la qualité de l'amour du Père sur lui. Et cette qualité se traduit par l'amour qu'il a pour les brebis. Je crois que c'est très important pour nous de comprendre que l'amour du Père pour nous, je ne dis pas se mesure à l'amour de charité que nous avons pour le prochain. En réalité, c'est pas se mesure, mais est dans la même intensité. C'est nous qui mesurons l'amour du Père sur nous, c'est-à-dire qui arrêtons cet amour du Père sur nous, dans la mesure où nous ne sommes pas capables de donner notre vie pour nos frères. Si nous sommes capables de donner notre vie pour nos frères, nous sommes sûrs que le Père nous aime comme il aime son Fils bien-aimé. Vous voyez, c'est ça, je crois, le réalisme de la vie chrétienne et le réalisme de la contemplation chrétienne, inséparable de la charité fraternelle. C'est distinct, faut pas confondre. immédiatement source cause seconde. C'est vrai. Nous savons très bien que nous mesurons plus ou moins notre charité fraternelle. Au contraire, nous sommes plus ou moins donnés à la charité dans la charité fraternelle. Dans la contemplation, on est beaucoup plus dans une attitude de réceptivité. On reçoit. Et ce n'est pas nous qui mesurons notre contemplation. On a ce réalisme suffisamment grand de comprendre que dans la contemplation, on est beaucoup plus dépendant de l'amour actuel de l'Esprit-Saint sur nous. Ce qui est vrai, ça. Si ça dépendait de nous, on serait toujours dans la huitième demeure. Mais c'est quelquefois très aride, très rude, très pénible. Et ça dure. Nous avons l'impression que vraiment, quelquefois, l'Esprit Saint exagère un peu. Il revient donner un peu plus d'expérience divine. Et nous oublions que dans la charité fraternelle, nous ne faisons pas tout ce que nous pouvons faire.
Surtout pour ceux qui sont un peu
peu intellectuel et qui ont un certain sens de la contemplation. C'est jamais drôle. Et pourtant, c'est le seul moyen d'entrer à fond dans la contemplation. C'est pour ça que tous les ermites disent qu'il faut au moins 10 années de vie commune avant d'entrer dans la vie d'ermite. Autrement, c'est dangereux. Parce qu'on n'a pas cette possibilité d'un don actuel. On reprend. Il faut réfléchir là-dessus, parce que c'est Jésus qui nous dit ça. C'est pas une question de théologie, c'est pas une question de savoir si on est de telle ou telle spiritualité. C'est directement le bon pasteur. Donc, c'est le bon pasteur qui nous éduque. À la fois l'unité de la bergerie. Ça, c'est le désir intense du Christ. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bergeis. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Donc ça, c'est le désir missionnaire de notre cœur. Toujours de dépasser les limites, tout ce qui est là pour arrêter. Et elles écouteront ma voix. Et il n'y aura alors un seul troupeau, un seul berger. Voilà pourquoi le Père m'aime. Ça, c'est le grand secret. Parce que moi, je livre ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève. Mais moi, je la livre de moi-même. Donc, cette liberté totale à l'intérieur de la charité fraternelle. Et c'est vrai. Dieu nous laisse une liberté totale dans la charité fraternelle. Dans le don effectif de nos frères. Là, la prudence éclairée par le don de conseil joue. Mais au niveau intérieur, on doit être toujours prêt à donner sa vie pour ses frères, sa vie temporelle. J'ai pouvoir de la livrer, j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Voyez ce qui fait comprendre l'intensité de la charité fraternelle du cœur de Jésus. Donc, l'intensité de son amour dans son sacerdoce. Dans son sacerdoce de mon pasteur. Il ne retient rien pour lui. Il donne tout. Il y eut de nouveau une division parmi les Juifs à cause de ces paroles. Vous voyez, plus Jésus va loin, plus Jésus va loin dans la communication de son amour et la révélation de ses secrets. Ce qui devrait unir, ça provoque des divisions. Vous voyez le chapitre 6. Dans les deux endroits, nous disant, il y eut de nouveau une division parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient, il y a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas là histoires de démoniaques. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles? Voyez. Si on reçoit ces paroles de Jésus, ceci fait l'unité. Je crois. Ça met du temps à se réaliser concrètement, c'est bien évident. Mais profondément, ça fait l'unité. Je ne peux pas lire ces paroles de Jésus sans accepter certaines divisions parmi les brebis du Christ. Et surtout, parmi une petite communauté de brebis du Christ. Puisque c'est le désir du Christ qu'il y ait cette unité dans son amour. Et malgré des paroles aussi fortes, les hommes arrivent encore à les rejeter. Parce que tiens, il a un démon, il est fou. Parce que ça dépasse ce que nous pouvons comprendre. L'amour a toujours quelque chose de fou. Quelque chose qui est au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Alors arriva à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver et Jésus circulait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs donc l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand nous tiendras-tu l'âme en suspens ? Si c'est toi le Christ, dis-le nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que moi je fais au nom de mon Père, ce sont elles qui témoignent à mon sujet. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis à moi. Mes brebis à moi écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, nul ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et nul ne peut rien arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Encore, cette unité du cœur du Christ et du Père est affirmée au moment où Jésus montre son lien avec ses brebis. Le cœur du bon pasteur, relié à ses brebis, ne fait qu'un avec le cœur du Père. Ça reprend, si vous voulez, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la charité fraternelle a la même qualité que notre amour à l'égard du Père. Nous avons beaucoup de peine à vivre de cela. Parce que, au point de vue psychologique, c'est pas du tout la même manière d'agir. Mais c'est là, on voit très bien que quand la psychologie commence à l'emporter sur le regard théologal, on est en contradiction avec ce qui nous est dit dans l'Écriture. Au niveau psychologique, le conditionnement de notre amour de charité fraternelle dans notre vie commune est totalement différent de notre conditionnement de celui qui adore et de celui qui veut contempler Jésus. Mais au-delà de cette diversité du conditionnement, il y a l'unité. Unité de regard divin, unité de regard de sagesse divine. Alors, il ne faut pas tomber dans l'autre excès, vous voyez, éviter les deux excès. Hein. Alors, ne plus regarder dans le prochain que Jésus, et ne plus regarder que le prochain, en disant, en regardant le prochain, je vois le Christ. Non, ce n'est pas vrai. Les deux choses qu'il faut éviter, et les deux sont d'ordre psychologique. C'est très curieux, ça. C'est à l'égard de l'exercice de la charité que l'aspect psychologique demande le plus à être dépassé. Comme toujours. Parce que la psychologie, comme telle, ne peut rien nous dire de l'amour. A fortiori, l'amour divin. La psychologie se situe au niveau des désirs, mais pas au niveau de l'amour. Au niveau du conditionnement, donc au niveau des désirs. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et nul ne peut rien arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, personne ne peut rien arracher de la main du bon pasteur. Puisque le bon pasteur et le père ne font qu'un. Jésus leur répondit, « Je vous ai montré, venant du Père, beaucoup de belles œuvres. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous voulons te lapider, mais pour blasphème, et parce que toi, étant un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « Ne se trouve-t-il pas écrit dans votre loi, « Moi, j'ai dit, vous êtes des dieux, que si la loi a appelé Dieu ce à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'Écriture ne peut être abolie. Celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, vous, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croiriez pas. Croyez les œuvres, afin de connaître une fois pour toutes que le Père est en moi et moi dans le Père. Il cherchait donc de nouveau à l'appréhender. Il échappa à leurs mains. Vous voyez ce passage si assez extraordinaire où Jésus veut faire tomber l'obstacle. Il déclare que Jésus blasphème parce que Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Et Jésus veut faire tomber le blasphème en rappelant la parole du psaume. Moi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Que si la loi a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'Écriture ne peut être abolie. Celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, vous, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Voyez que pour nous, dans notre foi dans le Christ, nous voyons que ce n'est pas tout à fait la même affirmation quand Jésus dit, je suis fils de Dieu. Et quand le psaume dit, moi j'ai dit, vous êtes des dieux. Il faut bien comprendre ça. D'un côté, on est en présence de Jésus, fils bien-aimé du Père et fils unique du Père. Et de l'autre côté, on est en présence de tous ceux qui ont la foi et qui ont la grâce. Et nous distinguons bien les deux. C'est assez extraordinaire de voir que Jésus, par amour pour ceux qui sont auprès de lui et qui sont scandalisés, veut enlever le scandale en prenant ce genre de raisonnement. Je crois que c'est très fort ce que nous dit notre Seigneur là. Et c'est peut-être la miséricorde ultime que Jésus donne à son peuple pour enlever le scandale. Cette miséricorde, c'est de les prendre là où ils sont. Et là où ils sont, ils vivent des psaumes. Moi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Que si la loi appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, vous, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Jésus veut rappeler à son peuple le mystère de la grâce. avec ce que Jésus dit avec, à Nicodème. La très grande difficulté, hein. On devient sacristain de la grâce, vous savez, tellement habitué qu'on ne sait plus ce que c'est et qu'au bout d'un certain temps, on considère que notre vie, selon la chair et le sang, c'est tout simplement notre vie divine. La grâce est comme noyée. Elle est comme ramenée à l'humain. Alors, à ce moment-là, on se scandalise devant cette affirmation de Jésus. Le Père et moi, nous sommes un. Jésus rappelle que si on regarde en face le mystère de la grâce, par où nous sommes fils de Dieu, ce mystère nous conduit au mystère de Jésus. Des obstacles tombent. Vous voyez, c'est ce que Catherine de Sienne disait. Voir une âme en état de grâce, c'est voir la très sainte Trinité. Le mystère de la grâce nous apparente d'une manière telle au mystère de Dieu que par la grâce, on est enfant de Dieu. Donc, on est capable d'entrer dans la manière de vivre de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. On vit le mystère même de Dieu. Et à ce moment-là, on peut comprendre que par le mystère de la grâce, il y a une unité de vie qui se fait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Père qui vit en moi, par la grâce. Et donc on comprend qu'il y a une unité au niveau de la vie. Et cette unité au niveau de la vie enlève l'obstacle par rapport à l'affirmation du Christ. Mais il y a là une espèce de pédagogie divine de Jésus par rapport à son peuple qui va très loin. Parce que c'est vrai, c'est le scandale de considérer que Jésus blasphème quand il dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Et Jésus montre que si on reçoit la parole de Dieu et qu'on entre dans le mystère de cette naissance nouvelle, du mystère de la grâce, alors on comprend qu'il y a une unité de vie. Et cette unité de vie va ouvrir en quelque sorte la possibilité au point de vue de la foi d'accepter que cette unité de vie peut, si Dieu le veut, aller encore plus loin. Il n'y a pas de limite à la grâce, autrement dit. Dès que j'entre dans l'ordre de la grâce, j'entre dans l'ordre de l'amour divin. Et il n'y a pas de limite. Et donc, les obstacles tombent par rapport au scandale. Ouais, c'est une voie d'immanence. La vie et l'unité de la vie, nous pouvons arriver à affirmer cette unité radicale. Comprenons bien, quand je dis nous pouvons arriver, ça ne veut pas dire que c'est nécessaire, mais ça enlève les obstacles. Parce que ça nous met dans une attitude de docilité à l'égard de Dieu, dans une attitude d'abandon à l'égard de Dieu. Et je crois que c'est ça que Jésus veut faire comprendre. On pourra discuter indéfiniment. Et c'est vrai, on pourra discuter indéfiniment. C'est comme entre réformés et catholiques, on peut discuter indéfiniment. Et je crois qu'on continuera de discuter indéfiniment et le Christ reviendra dans sa gloire. On continuera de discuter indéfiniment parce que au niveau des raisonnements théologiques, c'est cela seul qui permet d'avoir un cœur ouvert à entendre ce que le Christ peut nous dire et à adhérer au mystère même du Christ. Je crois que c'est cela que Jésus veut nous enseigner là. Parce que si vous le prenez autrement, vous dites Jésus fait une grosse erreur, il est en train de les tromper. C'est vrai, le bruit de l'extérieur, c'est très gros. Un étudiant dans un devoir de théologie ferait ça. Vous voyez immédiatement ce que le professeur de théologie dirait. Écoutez, ne confondez pas ce qui est de l'ordre de la participation à ce qui est de l'ordre de la source. La plénitude de grâce du Christ, c'est quand même pas la même chose que notre grâce. C'est vrai et c'est pas vrai. Ce que Jésus le dit. Il faut donc essayer de comprendre ce que Jésus veut nous dire et comprendre ce langage propre à l'amour. Vous voyez, on trompe toujours sur ce problème autre chose, un regard d'ordre antitatif, autre chose, un regard d'amour. Les rapports de la grâce et de la nature, autre chose, un regard antitatif. Théologie scientifique, autre chose, un regard d'amour qui n'est plus un regard scientifique mais qui est un regard de théologie mystique. Alors c'est à l'intérieur de l'amour, il y a une espèce d'immanence de l'amour divin qui fait rejoindre la transcendance. Ce qu'on disait ce matin, au fond, la phénoménologie ne serait vrai qu'à partir de l'amour divin. Ça, c'est vrai, je crois. Elle ne serait vraie qu'à ce moment-là, parce que dans l'amour divin, l'immanence rejoint la transcendance. La transcendance est présente dans l'immanence. Dans l'amour divin, dans la charité, il y a cette immanence tout à fait particulière que la transcendance est présente. On est vraiment fils de Dieu. On l'est vraiment. Par la grâce et dans la grâce. Et si on l'est vraiment fils de Dieu, on rejoint celui qui est le premier fils de Dieu. Et le premier fils de Dieu, il est fils de Dieu d'une manière unique. Vous voyez, comment par l'immanence de la grâce, on rejoint quelque chose de transcendant. Je crois que là, il y a pour nous hein, qui sommes habitués à un regard antitatif. Il est très important de comprendre ce regard intérieur de l'immanence de l'amour. Il ne faut pas oublier l'autre, c'est bien évident. Notre langage est au niveau, non pas de l'immanence d'amour, mais il est au niveau de l'intelligence. Notre langage propre, mais notre vie est au niveau de l'immanence de l'amour. Ce hiatus terrible entre la vie et le langage. La vie est au niveau de l'amour et le langage est au niveau de l'intelligence. Le langage est toujours fils de l'intelligence, tandis que dans la vie, passons cela et nous entrons dans un point de vue de l'amour. Et ça, je crois que la phénoménologie serait vrai. Je dis serait vrai. Oui, si justement on pouvait tout ramener à l'amour, ce qui ne peut se faire que pour l'amour divin. Dieu est amour, je ramène tout l'amour. Mais je ne peux pas, moi, par rapport à ma vie divine, tout ramener à l'amour. Parce que l'amour qui est présent en moi implique, distinct de cet amour, l'espérance et la foi. Donc la connaissance distincte de l'amour. Il n'y a qu'en Dieu où l'amour est substantiel. l'amour ne fait qu'un avec la connaissance. Donc, ceci dans, comme enseignement du Christ, ce chapitre Christ, c'est très fort comme enseignement du Christ. C'est, je crois, un enseignement ultime au niveau de la grâce et au niveau du lien qui existe entre les brebis et le bon pasteur, des liens qui existent entre la victime et le bon pasteur. Il s'en alla de nouveau de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean